Car je suis persuadé que ni mort, ni vie, ni ange, ni principat, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Bonjour. Voilà un verset magnifique que je veux partager avec vous aujourd'hui. Frères et sœurs, je suis complètement associé à la confiance que Paul avait quand il a exprimé par ces quelques mots ce que nous venons de lire là. On a tous un point commun, nous autres les chrétiens, nous avons tous des problèmes, et ça c'est certain, mais ce qui est moins certain, c'est nous n'avons pas tous la même façon d'affronter nos difficultés. En fait, vous voyez, ça fait 43 ans maintenant que je connais le Seigneur et j'ai eu le temps de m'apercevoir que nous abordons nos difficultés, nos problèmes de deux façons différentes. Les négatives, la façon négative ou la façon positive. Ça, j'explique. Quand un problème vous tombe dessus, soit vous vous sentez dépassé, vous vous énervez, ou alors vous faites ce qu'il faut pour le solutionner et surtout, vous faites tout pour que ce problème ne surgisse plus, ne devienne pas pire, ne se reproduise plus, enfin voilà. Une chose désagréable nous arrive. Est-ce que vous êtes terrassé? Est-ce que vous êtes écrasé? C'est-à-dire, est-ce que vous baissez les bras? Est-ce que vous acceptez la défaite? Est-ce que vous abandonnez la bagarre? Un chrétien qui se nourrit de la parole de Dieu, eh bien, il va trouver en lui-même alors la force. Il va avoir des réflexes, le réflexe de la prière. Il va se mettre à combattre dans la prière. Alors, il va formuler des prières correctement parce qu'il est nourri par la parole de Dieu. Il n'aura pas des prières d'incrédulité. Il ne va pas dire des choses à Dieu qui sont des prières de mendiant, d'incrédule. Il va confesser la victoire. Il ne va pas mendier négativement devant le trône de Dieu. Il va proclamer que rien ne peut lui nuire, il va entrer dans la gratitude, vous voyez. Un chrétien qui se nourrit régulièrement de la parole de Dieu, il est balèze, il est fort, il sait comment, parce qu'il est inspiré par la parole de Dieu, dont il s'est nourri quand tout allait bien. Et quand le problème surgit, instinctivement, le réflexe, c'est de prier d'une façon correcte. Mais parfois, il arrive que, même si on fait tout ça, rien ne semble s'arranger. J'ai une amie, en ce moment, elle va se reconnaître. Elle vit dans un quartier qui est épouvantable, qui est affreux, c'est mal fréquenté, tout ça. Ça fait des années qu'elle demande un appartement. Ça fait des mois qu'elle demande un appartement. Elle prie. Mais rien ne semble se passer. Peut-être que vous êtes là aussi. Je ne sais pas forcément en train de rechercher un appartement, mais vous avez un problème, et puis vous priez, et puis il semble qu'il ne se passe rien. Peut-être que vous n'avez pas encore baissé les bras. Peut-être que vous ne voulez pas baisser les bras. Vous avez persévéré dans la prière, vous avez entretenu des pensées de foi, et pourtant rien ne semble se passer. Alors écoutez-moi bien. Si vous avez vraiment fait tout ça, et que le problème est toujours là, qu'il ne bouge pas, je vais vous dire une chose à laquelle vous n'avez peut-être jamais pensé, c'est que vos prières ont été exaucées. Sans quoi votre condition serait encore pire que ce qu'elle n'est. Mon frère, ma sœur, en présence d'un problème, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Vous ne pouvez pas choisir d'arrêter de prier. Vous ne pouvez pas. Si vous arrêtez de prier, vous allez tomber encore plus bas. Et en plus, vous n'avez pas le choix entre la sérénité et l'irritation. Vous n'avez pas le choix. Il n'y a que la sérénité que vous pouvez manifester, que la sérénité. Vous n'avez pas le choix. Si vous cessez d'être dans la sérénité, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous endurcir, vous allez devenir aigri, vous allez offrir un visage d'une personne qui est défaite, vous aurez l'air pitoyable, vous serez pitié, vous commencerez à croire que le monde entier est contre vous, que Dieu même peut-être vous a abandonné. Vous voyez, vous n'avez pas d'autre choix que la sérénité. Tous les chrétiens qui se plaignent,
ils finissent par avoir le même sort. J'ai eu le temps de voir, hein. En 43 ans, j'ai eu le temps de voir. Ils finissent par avoir le même sort que ceux qui s'apitoient sur eux-mêmes. Ils vivent seuls, ils sont isolés du monde, privés d'amour. Et s'ils en sont là, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ont éloigné leurs amis avec cette attitude pitoyable. Beaucoup de gens se disent chrétiens. Je ne suis pas en train de vous parler de mon amie qui a un problème d'appartement, là, elle est dans le combat, elle est positive. Mais je vous dis, beaucoup de gens se disent chrétiens. Quand quelqu'un vous dit « je suis chrétien », demandez-lui « êtes-vous un vrai chrétien ou êtes-vous un chrétien hypocrite ?» Vous prenez un air tout à fait naïf et vous posez la question. Vous allez voir, tous pensent être de vrais chrétiens. Cependant, beaucoup ont des masques. Et le mot hypocrite, ça signifie porteur de masque. Autrefois, dans le théâtre, en Grèce, c'était que des hommes qui jouaient. Alors, ils portaient un masque de femme pour jouer les femmes, ils portaient un masque de colère pour montrer qu'ils étaient en colère. Alors, les comédiens, on disait que c'était des hypocrites. Ce n'est pas un mot mauvais, ça veut dire comédien. Comédien. Au fond, ces gens sont vraiment chrétiens. Derrière le masque, ils sont vraiment chrétiens. Ils aiment Jésus. Mais ils portent un masque que tout le monde peut voir, un masque de cynisme, un masque de froideur, un masque d'amertume, un masque de dureté. Pourquoi? Parce que le problème ne s'est pas résolu très rapidement et alors ils ont commencé à développer une mauvaise attitude. Laquelle? Chaque fois qu'ils ont rencontré une difficulté ou tout au long de la difficulté contre laquelle ils sont en train de se battre, ils se sentent en colère, ils entrent dans la colère, ils s'irritent eux-mêmes. Pourtant, ils aiment Dieu. Mais ils oublient que Jésus a promis « Celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas. » Jean 6, 37. Alors, puisque vous m'écoutez là en ce moment, placez votre main sur votre cœur et répétez après moi. « Seigneur, j'admets que j'ai commis le pire péché du monde. J'ai entretenu des pensées de non-foi, c'est-à-dire des pensées négatives. J'ai entretenu des pensées négatives, Seigneur. Désormais, je ne me battrai plus avec mes problèmes parce que maintenant, j'ai accepté d'être sauvé par toi. » Enfin, Michel, peut-être vous pensez que vous avez déjà accepté d'être sauvé, ça fait des années que vous connaissez Jésus comme votre sauveur. Alors, ce problème que vous avez, qui vous irrite, qui vous gâche votre joie, qui vous ôte votre paix, Jésus ne vous en a pas sauvé? Comment est-ce que vous pouvez croire que Jésus ne vous en a pas sauvé? Puisqu'il dit qu'il ne rejette jamais personne qui vient à lui. Il ne vous a pas rejeté. Jésus est là, en ce moment-là, devant vous. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Vous allez lui débiter la liste de tout ce que vous avez fait de bon durant votre vie pour essayer de l'impressionner? Ça n'impressionne pas. Vous allez vous plaindre devant... Non, soyez humble. Demandez-lui du secours et croyez que ce qui arrive, c'est ça, son action. Parce qu'il ne vous repousse pas. Alors à présent, faites face à votre problème sereinement. Sachant que Jésus, il est avec vous, ça veut dire il est pour vous, il collabore avec vous. Mais si vous ne restez pas serein, vous allez vraiment devenir malheureux. Dans Romains chapitre 8, verset 28, il nous est enseigné que Dieu y collabore avec nous pour notre bien. Mais vous savez, un chrétien, Jésus a dit, prenez mon joug. Vous qui êtes fatigué, vous avez des problèmes, vous êtes fatigué, vous êtes lassé, vous êtes chargé. Il dit, prenez mon joug. C'est ce que c'est qu'un joug, c'est ce qu'on met sur les bœufs. Alors il y a un bœuf d'un côté, un bœuf de l'autre, et ils tirent tous les deux. Un joug, c'est une pièce en bois qu'on place sur le cou des bœufs, comme ça. Il a dit, prenez mon joug. Jésus est d'un côté du joug, et vous êtes de l'autre côté du joug. Mais si vous vous traînez, si vous rouspétez, si vous ruez dans les brancards, comme on dit, si vous gesticulez, hein, parce que dans un esprit de colère, vous êtes révolté, oui, le monde entier est pourri, et puis que si, et puis que ça, ben alors voilà. Ben, il ne peut pas y avoir de collaboration avec Dieu. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse à côté de vous? Il est avec vous, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Vous le laissez tout seul tirer, vous vous agitez. Lui, il n'est pas énervé. Dieu permet que vous ayez ce problème, oui, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'il veut que vous soyez accablé par ce problème. Vous devez collaborer avec Dieu. Dieu veut collaborer avec vous, mais vous devez collaborer avec lui. C'est-à-dire, il faut que vous agissiez comme lui, que vous marchiez au même pas que lui, que vous soyez serein, que vous soyez calme, que vous soyez confiant, que vous fassiez un pas à la fois. Ne vous agitez pas. Est-ce que vous voulez le faire? Vous avez dit oui, là. Votre oui, il a de la valeur parce que vous avez le pouvoir de dire non. Ce moment-là, vous êtes chrétien. Et un chrétien, il n'a pas le choix. Un chrétien, il ne peut pas dire non à Dieu. Parce qu'un chrétien, il aime Dieu. Il ne va pas dire non à Dieu. Alors, en ce moment, vous portez un problème, un peu comme Jésus qui portait sa couronne d'épines. Ça faisait mal, c'était difficile à porter, mais Jésus ne la porte plus maintenant. Il n'a plus de couronne d'épines, il est couronné de gloire maintenant. Pourquoi? Parce qu'il était jusqu'au bout. Tout est accompli. Il fallait que tout soit accompli. Et Jésus veut maintenant que vous passiez par votre calvaire pour en arriver à la gloire de la résurrection. Vous comprenez? Mais il veut que vous alliez jusqu'au bout avec son esprit, pas avec un esprit de colère, pas avec un esprit de cynisme, pas avec tous ces masques, tous ces trucs que vous montrez, qu'on voit, ça va pas, il y a quelque chose, c'est pas juste, vous êtes chrétien, mais ça va pas. Il veut pour vous la même chose que pour lui. Est-ce que vous me comprenez? Votre couronne d'épines, là, il veut, ensemble, vous allez l'ôter. Doucement, parce que sinon ça va faire encore plus mal. Et puis, il va vous couronner de gloire. Croyez ça. Vous avez prié avec foi, vous avez entretenu des pensées de foi, des pensées justes, des pensées positives, des pensées sereines. Laissez-le agir avec vous. Agissez la même chose que lui, dans le même sens que lui, avec son esprit, sa façon, son état d'esprit, dans le calme. La confiance, c'est là que sera votre force. Amen. Jésus, je te prie de bénir cette personne qui écoute là, qui a pris un peu de temps, un petit quart d'heure pour venir écouter ton conseil. Je te prie de l'aider à saisir cela et à imposer le calme à sa tempête. Au nom de Jésus-Christ, je me tiens avec toi là et j'impose le calme à ta tempête intérieure. Ça suffit que tu aies un problème. Tu n'es pas obligé d'avoir encore le problème de la tempête intérieure, de ta colère ou de ton cynisme. Non. Sois avec l'Esprit de Dieu, un esprit paisible, un esprit de pardon, un esprit de bienveillance, au nom de Jésus. Amen. Et amen. À bientôt. Le Seigneur est avec vous, c'est vrai. Il vous garde. Croyez-le vraiment. Amen.